Michel Perrottino, bonjour.
Bonjour.
Comment ça se présente cette campagne? C'est une campagne exceptionnelle, c'est une campagne ordinaire pour la Tchéquie?
On est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire c'est une campagne extraordinaire quand on regarde les candidats, notamment évidemment avec cette candidature d'André Babiš. Et puis on est dans l'ordinaire dans la mesure où c'est la troisième fois en fait qu'on a une campagne présidentielle pour une élection directe.
Quel rôle de la guerre en Ukraine sur cette campagne?
Alors directement, il n'y a pas d'influence directe, si ce n'est qu'évidemment certains candidats ont pu présenter des positions qui sont un petit peu dissonantes sur la scène politique tchèque. Mais dans l'ensemble, la plupart des candidats sont sur la même ligne, c'est-à-dire dénoncer l'agression russe et rappeler que la République tchèque est du côté de l'Ukraine. Et puis évidemment, il y a aussi l'impact économique en fait de la crise ou de la guerre. Et là, effectivement, tout le monde constate que l'influence ou l'impact de la guerre est relativement important.
Et puis ce n'est pas banal, un général qui se présente en ces temps de guerre, c'est important.
Alors, c'est important et ça ne l'est pas en même temps. C'est important parce qu'effectivement, on peut avoir cette idée que la guerre peut éventuellement, disons, se répandre. Mais ce n'est pas vraiment la perspective que l'on a ici, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on a la guerre en Ukraine qu'on a le général Pavel qui se présente, puisque sa campagne, en tout cas la perspective de sa candidature, était déjà présente avant la crise ukrainienne. Donc oui et non, c'est-à-dire c'est pas tellement sur ce thème-là en fait que Pavel, par exemple, accentue sa campagne. Mais évidemment, ça peut être présent pour certains électeurs dans une perspective un petit peu pessimiste.
Oui, et puis parce que il est beaucoup question du matériel militaire, notamment que donne la Tchéquie et le reste du monde à l'Ukraine. Donc ça lui donne quand même une certaine crédibilité en temps de guerre.
Alors, ça lui donne partiellement une crédibilité, mais alors, il est vrai que, par exemple, le général Pavel a rappelé avoir participé à des opérations militaires. Il est vrai qu'il a notamment souligné le fait qu'il ait sauvé 40 soldats français, même si c'était dans l'état-major. Mais sa position, elle est plus, disons, plus interne ou plus dans une perspective d'alternative vis-à-vis au principal candidat qui reste encore et toujours André Babiš.
Que penser d'un des rebondissements de la campagne dans la dernière semaine, le fait que Andrei Babis soit jugé non coupable?
Alors c'est un petit peu le cheveu dans la soupe, dans la mesure où effectivement la plupart des gens, ou en tout cas des personnes qui s'intéressent à la politique, pensaient que le résultat serait différent. Ça peut jouer un rôle positif pour Babiš, dans la mesure où peut-être une partie de l'électorat réticent à voter pour quelqu'un qui avait une perspective d'être condamné à relativement court terme, puissent finalement être un candidat comme un autre puissent porter leur choix justement sur André Babiš.
Il a tout à gagner en ne participant pas au débat comme il l'a fait ces derniers jours.
André Babiš, effectivement, a tout à gagner pour choisir les débats dans lesquels il va participer. Si on regarde la campagne électorale depuis disons, un mois ou deux, on peut constater qu'André Babiš a essayé de porter la campagne dans certains milieux qui n'étaient pas forcément les bons, notamment lorsqu'il a répondu à des élèves d'école tchèque, où ça a totalement eu un effet négatif. Et on peut se poser la question pourquoi il est allé répondre à des questions d'enfants, dans la mesure où il ne vote pas. Mais là, pour ce qui est des débats télévisés, il est clair qu'André Babiš, premièrement, n'a pas intérêt à, disons, se présenter à tous les débats, parce qu'il va être forcément la cible privilégiée, non pas de deux, trois candidats, mais de tous. Donc il va être sous pression constamment. André Babiš, quand il est sous pression, souvent il se laisse emporter et ça peut avoir des effets négatifs. Donc pour lui, il vaut mieux être, disons, absent que présent. mais pas tout le temps, et notamment le choix d'aller faire un débat devant les caméras de la télévision Nova, qui est une télévision privée, ça peut avoir une influence sur une partie de l'électorat, notamment l'électorat populaire, qui pourrait éventuellement donc regarder cette émission.
L'hebdomadaire Respect parle d'ingérence d'Emmanuel Macron dans la campagne avec la rencontre à Paris. Il a reçu André Babiche cette semaine. Qu'en pensez?
Alors, je ne sais pas si c'est ingérence. Je pense que c'est un petit peu trop grand. Si on regarde en fait ce qui s'est passé, c'est pas tellement Emmanuel Macron qui avait intérêt à discuter avec André Babiche, mais plutôt André Babiche qui avait besoin de montrer qu'il avait cette carrure internationale qui fait défaut à tous les autres candidats. On peut éventuellement discuter sur la carrière internationale de Petr Pavel, mais c'est pas une carrière politique. Alors qu'André Babiche, lui, il insiste énormément sur son expérience de Premier ministre, alors ça aussi c'est un petit peu paradoxal, mais l'expérience d'homme politique d'André Babiche, alors qu'il a, depuis son entrée en politique, il n'a cessé de critiquer la classe politique, il n'a cessé de critiquer l'establishment politique. D'un coup, on est dans une autre perspective, lui se présente comme celui qui a la capacité et qui a l'expérience pour être président de la République. Et donc, en allant à l'étranger, notamment en France, il fait la démonstration, justement, d'avoir cette carrure internationale qui le place de manière très claire, qui le place dans une position beaucoup plus avantageuse que les autres candidats.
Je reviens à Petr Pavel. Avoir un militaire à la tête d'un État comme la République tchèque, c'est quand même pas banal.
Alors, c'est pas banal, oui et non. Ça a déjà été le cas. On a déjà eu un président tchécoslovaque général, c'était le général Svoboda. Donc c'est pas en soi extrêmement nouveau, mais effectivement ça, disons, dénote par rapport à une image qu'on peut avoir de la République tchèque, qui n'est pas un État militaire ou a fortiori militariste marquant.
Autre événement, autre rebondissement dans cette campagne, c'est l'abandon du leader syndical Józef Strzedula, qui s'est désisté au profit de Danuše Nerudová, mais beaucoup doutent que ses voix, en tout cas ce que les sondages lui accordaient, aillent réellement vers la candidate. Qu'en pensez-vous?
Alors effectivement, c'est une démission inattendue. Il a été présent, très présent, lors du congrès de la social-démocratie samedi dernier. Personne n'attendait vraiment à ce qu'il fasse une telle déclaration et à ce qu'il se retire de la campagne. En même temps, quand on regarde les derniers sondages, en tout cas les derniers sondages qui ont été publiés avant mardi dernier, on peut constater que effectivement le soutien électoral supposé ou présagé de Strzedula n'était pas extrêmement important. Et donc il allait de toute façon à un échec. Donc d'un certain point de vue, pour lui, il était sans doute assez logique, voire stratégique, de se retirer à temps. D'un autre point de vue, effectivement, quand on regarde l'électorat politique que l'on a donc depuis quelques semaines, en tout cas tel qu'il est présenté dans les sondages, l'électorat de Strzedula est relativement proche de l'électorat d'André Babiche. Et d'ailleurs, une note de bas de page, l'électorat d'André Babiche est souvent l'électorat de la social-démocratie ou du Parti communiste, en tout cas les personnes qui ont voté pour ces partis lors des élections précédentes. Donc il y a un électorat de gauche qui aujourd'hui est totalement démuni, au sens où il n'y a plus, dans le panel que l'on a des candidats, il n'y a plus de candidats de gauche. Et finalement, André Babiche est celui qui va sans doute le plus en profiter. Plus évidemment aussi tout simplement le fait que quand André Babiche était au gouvernement, il a beaucoup fait pour augmenter notamment les retraites. Et donc là, on retrouve en fait encore une fois l'électorat de gauche qui, assez logiquement et rationnellement d'une certaine manière, va porter son choix sur André Babiche parce qu'il a fait ce qu'il a promis.
Ceci dit, Michel Perotino, certains analystes estiment que les opinions négatives sur André Babiche sont importantes au point de le freiner au deuxième tour. Est-ce que les chances de Andrei Babich, s'il se qualifie pour le deuxième tour, sont réellement minimes?
Alors c'est la grande inconnue. Enfin, on peut effectivement souligner cette polarisation extrême de la scène politique et aussi de l'électorat. Une très large partie de l'électorat ne veut pas André Babiche. Mais tout va dépendre beaucoup aussi de la deuxième personnalité qui va se retrouver face à lui. Parce que fondamentalement, quand on regarde Petr Pavel, c'est une des grosses critiques qui sont portées à son encontre. Petr Pavel, il a commencé sa carrière avant 1989, donc sa carrière militaire avant 1989. Il a, avant 1989, ou juste en 89, il a suivi des cours pour le dire vite, d'espion militaire. Donc, au profit, de l'État communiste de l'époque. Donc, pour une partie de l'électorat, y compris ceux qui sont contre André Babiche, fondamentalement, Petr Pavel et André Babiche, c'est un petit peu, blanc-bonnet et blanc-bonnet,
Et bonnet blanc.
et bonnet blanc, merci. Donc, de ce point de vue-là, finalement, André Babiche, il n'est pas aussi handicapé que qu'il pourrait paraître d'un premier abord. Donc, à suivre.
Parce qu'André Babiche a lui-même un
Parce
dossier
que.
d'agent à la STB,
Voilà.
l'ancienne police secrète.
Exactement. Donc, c'est un petit peu. Ça aussi, c'est paradoxal, en fait, de se retrouver 33 ans après, 34 ans après novembre 89, de se retrouver avec, sur donc 8 personnalités, avec. Deux personnalités sans doute les mieux placées pour accéder au premier tour de l'élection présidentielle, enfin deuxième tour, pardon, de l'élection présidentielle, qui sont des personnalités qui sont tirées en fait de l'élite militaire, de l'élite économique, de l'ancien régime. Ça, c'est fondamentalement, c'est quelque chose d'inattendu fondamentalement et qui complexifie beaucoup. La lecture de la situation politique.
Fin de règne difficile pour l'actuel président Miloš Zeman. Est-ce qu'il joue beaucoup dans l'élection? Si son candidat préféré, à savoir Andrej Babiš, ne gagne pas, c'est un paramètre important, le facteur Zeman ici?
Alors, facteur Zeman est un facteur évidemment important puisqu'il reste encore président de la République jusqu'en mars. Il a déjà donné effectivement son avis sur le meilleur candidat, en tout cas le meilleur des candidats en lice. Ça fait longtemps, hein, qu'il a annoncé qu'il soutiendrait, qu'il espérait que André Babiche soit candidat et qu'il le soutiendrait. André Babiche d'ailleurs a rappelé que Miloš Zeman lundi dernier l'a rappelé, enfin l'a appelé au téléphone pour lui rapporter son soutien et pour le féliciter d'avoir été ainsi lavé entre guillemets de tout soupçon. Alors vous avez dit fin de règne, mais fondamentalement il est toujours président, il est toujours actif et il continue à jouer un rôle notamment négatif relativement important, que ce soit en refusant de nommer un ministre, que ce soit en annonçant que peut-être il allait déjà aujourd'hui nommer le futur président de la Cour constitutionnelle, l'actuel président. Monsieur Lechetsky terminant son mandat en août, ce qui est assez, disons,
Contraire à l'esprit de la
cavalier
Constitution.
et contraire à l'esprit de la Constitution. Donc il continue à jouer un rôle relativement important et très présent finalement sur la scène politique. Et il est très clairement un des appuis importants d'André Babiche. Et aussi sans doute le modèle pour André Babiche. Il faut bien voir que pour Babiche, Miloš Zeman, c'est pas seulement un de ses principaux conseillers, c'est aussi un modèle, puisqu'il a été élu président de la République, mais il a été aussi, jusqu'à présent, c'est le seul premier ministre à avoir composé un gouvernement avec son seul parti. Ça, c'était aussi cette idée un petit peu d'André Babiche, de faire aussi bien que Zeman, c'est-à-dire d'obtenir ce gouvernement monocolore. Ce qui n'a pas réussi. On l'entend finalement assez peu souvent, c'est-à-dire on rapporte souvent qu'André Babiche, c'est le groupe agro-industriel Agrofert qui l'a fondé, c'est l'émission des intérêts privés dans la vie politique. Et ce qu'on oublie en fait de rappeler, c'est qu'André Babiche, c'est aussi le chef du plus grand parti politique tchèque actuellement, qui dispose du plus grand nombre de députés. Ce sera une première. fondamentalement, un président élu au suffrage universel direct, s'il remporte l'élection, avec en plus ce soutien du plus grand parti. Ça va énormément changer la donne pour les années qui viennent. Donc il n'y a pas seulement cet enjeu, disons, privatif, il y a aussi beaucoup cette question sur ce que va devenir en fait la République tchèque et comment va évoluer le régime politique.
Merci beaucoup Michel Perotino.
Merci à vous.